Dans le précédent enseignement, nous avons parlé de la liberté. L'usage de la liberté peut nous conduire au péché, thème que nous allons approfondir aujourd'hui. Dans un premier temps, j'apporterai une courte définition du péché, puis nous verrons quelle est l'origine du péché. Enfin, nous parlerons du salut. Premier point, une courte définition du péché. Alors, je reprends une définition de Pierre Rémy. Le péché est une notion religieuse. Il est toujours devant Dieu et devant Dieu qui interpelle. D'où la différence avec la faute. Celle-ci est devant les hommes. Elle concerne le domaine éthique. Le péché n'a de sens qu'au niveau de la relation de l'homme à Dieu. Le chrétien ne peut le déterminer qu'en allant à la personne de Jésus, à son dire, à son faire, confessé dans la foi comme parole de Dieu. En somme, une faute devient péché quand le chrétien prend conscience, sous le regard de la parole de Dieu, que son acte est un manque à l'amour de Dieu. La culpabilité naît en nous de la conscience d'une transgression par rapport à une loi sociale, nationale, religieuse, familiale. Cette transgression ne devient péché que pour ceux qui vivent une relation d'alliance avec Dieu. Le péché est la rupture de cette alliance. On peut citer le psaume 51, verset 6. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. La Bible affronte cette réalité du péché avec un objectif très clair. Celui de nous libérer définitivement à la fois de la culpabilité et du péché. Dans ce but, la révélation biblique sur le péché est double. Pour commencer, elle le démasque. C'est l'origine du péché. Ensuite, elle annonce notre libération. C'est le salut. Alors, quelle est l'origine du péché? Tout d'abord, être comme des dieux. Les premiers chapitres de la Genèse nous enseignent que nous sommes des êtres de relation. Relation avec Dieu, relation avec la nature, relation homme-femme, etc. Ce texte nous rappelle aussi notre condition de créature limitée. Pour grandir dans notre humanité, nous devons apprendre et donc recevoir une parole d'un plus grand que nous. Adam et Ève reçoivent une parole de Dieu, mais ils la rejettent parce qu'ils veulent se positionner comme l'unique point de référence. Ils veulent faire leur propre loi, leurs propres règles. Ils se placent au centre du monde. Et ils succombent à cette tentation énoncée par le serpent. Vous serez comme des dieux. Telle est la nature profonde du péché. L'homme et la femme s'arrachent à la vérité, mettant leur volonté au-dessus d'elle. Nous avons vu que la vérité nous rend libres. En voulant s'affranchir de Dieu et être des dieux, l'homme et la femme se trompent et se détruisent. Ils s'aliènent. Nous sommes effectivement appelés à être divinisés, comme le rappelle Irénée de Lyon au IIe siècle. Je cite, « Dieu s'est fait fils de l'homme pour que l'homme à son tour devienne fils de Dieu. » Mais cette grâce est un don de Dieu et non un fruit que nous pourrions prendre à un arbre. C'est l'orgueil qui nous pousse à prendre plutôt qu'à recevoir. L'orgueil est à la racine des péchés. Parmi les sept péchés capitaux, orgueil, avarice, paresse, envie, colère, luxure, gourmandise, la doctrine chrétienne considère l'orgueil comme le plus important, le plus grave de tous, Parce que ce sentiment de supériorité pousse à se placer au-dessus des autres et ultimement à s'élever au-dessus de Dieu. Le récit de la Genèse dans la Bible nous rappelle cruellement que l'orgueil était la racine des péchés et donc du mal. Adam et Ève avaient tout pour être heureux, mais ont décidé de se prendre pour Dieu. Une fois évoqué, en quelques mots aussi, les forces du mal comme origine du péché. Pourquoi est-ce que je commets le mal alors que je sais pertinemment que ce n'est pas un bien? Paul résume cette situation paradoxale. Je cite Romains 7, 19. « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Une force nous pousse à commettre le mal, car il nous donne l'illusion de croire que c'est un bien. Dans le livre de la Genèse, cette force du mal prend la figure du serpent, qui susurre à l'oreille d'Ève « Vous ne mourrez pas, mais vous serez comme des dieux. » Plus loin dans la Bible, ce serpent deviendra le Satan, notamment dans le livre de Job, c'est-à-dire l'adversaire de Dieu. Et ensuite, le serpent deviendra le diable dans le monde grec, c'est-à-dire celui qui divise, du grec diabolos, le diviseur. La Bible le nomme aussi le tentateur, et nous sommes continuellement soumis à des tentations. La tentation du pouvoir, devenir tout-puissant. La tentation de l'avoir, posséder toujours plus. La tentation de la jouissance, celle du plaisir immédiat, sans entrave et sans limite. Ces tentations nous font lorgner un poste à responsabilité pour se valoriser soi-même. Elles nous poussent à une consommation effrénée au détriment d'une sobriété heureuse. Elles nous font désirer la femme ou le mari du voisin parce qu'il ou elle paraît bien séduisant, séduisante. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Jésus lui-même est soumis à la tentation. Satan lui propose de transformer les pierres en pain parce qu'il a faim. Il lui demande de se jeter du haut du temple pour voir des anges empêcher sa chute. Enfin, il lui promet un royaume s'il se prosterne devant lui. Jésus résiste et nous invite à faire de même à travers la prière de notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Parfois, nous succombons à la tentation. Mais la Bible nous rappelle que le péché, quelle que soit sa nature, sa forme, ce n'est pas une fatalité. Jésus nous offre toujours un chemin de salut. Troisième point, le salut. Si le salut est un don de Dieu, nous sommes néanmoins appelés à nous convertir, et une des vertus de ce chemin de conversion, c'est l'humilité. L'humilité est la vertu qui s'oppose à l'orgueil, à la suffisance ou à l'arrogance. La personne humble est celle qui reconnaît ses limites et ses fragilités, comme en fait foi la prière de ce psalmiste. Alors c'est le psaume 131. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard hautain. Je n'ai pas pris un chemin de grandeur ni de prodige qui me dépasse. Non, je me tiens en paix et en silence. Comme un petit enfant contre sa mère, comme un petit enfant, telle est mon âme en moi. Nous retrouvons ici le thème de la tendresse que nous avons déjà vu. Yves Guimet, bibliste, nous précise la richesse de l'humilité. Nous apprenons l'humilité à partir des épreuves, comme la maladie, l'échec, l'expérience du péché, comme révélatrice de nos fragilités humaines. en prenant conscience de notre pauvreté intérieure et de notre fragilité, nous pouvons nous tourner vers les autres et vers Dieu avec confiance. L'humilité apparaît alors comme une attitude d'abandon confiant à Dieu. L'humble est quelqu'un qui cherche Dieu, non seulement pour vivre en communion avec lui, mais aussi pour atteindre l'unité et la cohérence de sa personne. L'humble sait qu'il ne peut compter seulement sur ses propres forces pour se réaliser et pour combattre le péché et le mal. Il a besoin d'assises, d'un roc solide sur lequel édifier sa vie. Et ce roc ne peut être que le Seigneur. L'origine latine du mot humilité peut nous aider à nous débarrasser d'une fausse idée de l'humilité. En effet, le mot humilité vient du latin humus, qui se traduit par terre, sol. On comprend alors que l'humilité chrétienne est cette qualité d'ouverture qui permet aux croyants d'accueillir la parole de Dieu comme une semence qui donne à sa vie une dimension nouvelle. Être humble, c'est reconnaître que nous ne détenons pas tous les éléments qui répondent à notre recherche du sens de la vie. C'est accepter que Dieu soit celui qui apporte cette réponse, notamment à travers son Fils Jésus. L'humilité assure alors la fécondité de notre vie, puisque la parole de Dieu peut y être semée pour la transformer et lui faire porter des fruits, fruits de foi, d'espérance, d'amour, de bonté, de paix et de miséricorde. En somme, tous les ingrédients pour combattre le péché et le mal. L'humilité est en ce sens le terreau dans lequel Dieu pourra nous délier du péché. Le salut vient effectivement nous délier de notre péché, délier en deux mots, supprimer les liens. Alors prenons un exemple symbolique dans le livre des Juges, où la belle Dalila enchaîne Samson pour connaître le secret de sa force, force qui réside dans sa chevelure. Samson accorde sa confiance à cette femme. Il est aveuglé par sa passion. À la vue de son sang enchaîné, les Philistins jubilent, croyant à une proche victoire. Mais l'esprit intervient. Quand Samson arriva à Lii, je cite Juges 15-14, « Quand Samson arriva à Lii, les Philistins vinrent à sa rencontre avec des cris de triomphe. Alors l'Esprit du Seigneur s'empara de Samson. Les cordes qui liaient ses bras et ses mains cédèrent aussi facilement que du fil de lin brûlé. L'Esprit du Seigneur donne à Samson la force de se libérer des liens physiques qui le ligotaient. Dans nos vies, nous ne sommes peut-être pas réellement liés par des cordes, mais beaucoup d'entre nous sont liés de bien d'autres manières. Par l'addiction à la drogue, à l'alcool, à la pornographie, aux richesses matérielles, ou encore liés par le mensonge, la jalousie, la colère, la peur, des pensées destructrices. Toutes ces choses peuvent avoir une réelle emprise sur nos vies et nous enfermer. Mais quand l'Esprit de Dieu vient sur une personne, il lui donne le courage et la puissance de briser ses liens. Et un des plus grands enseignements bibliques est que nous pouvons être libérés de l'esclavage, du péché et de la mort. Le projet de Dieu pour l'humanité est un projet d'amour et de bonheur. Il prend la forme d'actes concrets de libération et de salut. Dans l'Ancien Testament, l'événement fondateur est celui de la libération du peuple d'Israël de la servitude en Égypte. Dieu rachète Israël de la servitude comme on rachète un esclave. Le salut, c'est la liberté et la vie par opposition à l'esclavage et à la mort. Dans les psaumes, nous voyons les orants assaillis par les forces du mal, crier vers Dieu. Les images évoquent des ennemis réels, des maladies, des accidents ou encore la vieillesse et l'approche de la mort. Elles décrivent aussi des passions dévastatrices, la haine, le désir de vengeance. Le psalmiste supplie alors Dieu de lui pardonner et d'effacer son péché. Je cite le psaume 51. Voici, tu aimes la vérité dans les ténèbres. Dans ma nuit, tu me fais connaître la sagesse. Ôte mon péché avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais que j'entende l'allégresse et la joie, et qu'ils dansent les eaux que tu as broyées. Devant mes péchés, détourne-toi, toutes mes fautes, efface-les. Crée pour moi un cœur pur, Dieu, enracine en moi un esprit tout neuf. Jésus vient accomplir ce mystère de salut. Il dénonce les forces de suspicion, de haine, de peur qui habitent en nous. Il ne cesse de secourir, de soulager, de guérir à la fois les corps et les cœurs. Il pardonne les péchés. Alors que les hommes se font de Dieu la fausse image d'un juge qui fait peur, Jésus révèle que Dieu n'est qu'amour et accueil, pardon et tendresse. Jésus nous sauve du péché et finalement de la mort. Je cite Roselyne Dupont-Roc, une bibliste. Jésus montre en le vivant d'abord lui-même jusqu'au bout que seul l'amour permet d'affronter la mort et de la traverser. Par sa propre mort, il désarme la mort elle-même, car la mort change de sens. Au lieu d'être opaque et de conduire à la désintégration, elle devient un passage vers le Dieu qui ne cesse de donner et de redonner la vie. Nous pouvons aussi citer ces propos de Paul en Romains 8, 2. La loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. En conclusion, le péché nous coupe de la vie même de Dieu. Il nous enferme dans la tristesse et le mensonge. Jésus nous propose des voies de guérison et de salut. Le pardon en est une. Ce sera notre prochain thème. Je vous remercie pour votre attention.